Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette 36e heure que nous allons passer ensemble. Oui, déjà, l'équipe est presque pas du tout complète ce jour. Si, Anne-Françoise, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
La quatrième titularisation.
Presque d'affilée, hein.
D'affilée.
Non, il y en a. Bah oui.
La semaine dernière, c'était la boîte à souvenirs. La semaine d'avant, c'était donc quand Erwan était allé voir le Real Madrid à Munich.
Voilà.
Et encore la semaine avant. Et vous étiez là,
et
donc
là.
Le compte est bon.
Là,
d'ailleurs, l'émission des chiffres et des lettres va s'arrêter.
Ah ouais, j'ai vu, je suis extrêmement triste. Moi, je regardais ça avec ma mamie.
Mais apparemment, les chiffres, c'était pas votre truc. Vous étiez plus en France, meilleur en français qu'en maths à l'école.
Ah non, franchement, moi j'aimais bien le truc où on calculait le compte est bon. Là.
Oh, ah,
j'aimais
tellement
c'est
ça. C'est vrai que c'était pas mal.
On trouvait jamais.
La culture aussi. Erwan, bonjour.
Bonjour, bah dis donc.
Culture, bah oui, culture sportive illimitée, un puits sans fond, surtout pour les petites équipes.
Ah oui. Et d'ailleurs, dans le top, je vais en parler d'une.
Ah, ça faisait longtemps, ça nous manquait un petit peu.
Mais
là,
les phases finales amateurs, forcément, là, il faut redonner un peu de...
Cet esprit un petit peu champêtre, là, où on va le dimanche après-midi à 14h.
On mange de la ventrèche.
Voilà.
C'est
ça. Avec une bière un peu tiède.
Où ça sent la merguez, la baguette merguez à 7,50€ avec 3 frites.
À 1 kilomètre.
Voilà, c'est ça.
Peut-être pas 7,50€.
Oui, non, mais après, c'est... Il y en a qui flairent le bon filon. Et puis vous l'avez entendu, Coraline et Thomanette, aujourd'hui, comment ça va?
Eh ben fort bien, et vous?
Ben bon week-end pour Pau finalement.
Exactement.
J'aurais
la
pas
section
dit...
à gagner.
Ounia section.
Oyonnax.
Oyonnax. Oyonna ou Oyonnax?
Oyonnax, ouais, c'est ça.
Alors, Oyonna. Moi je dis Oyonnax.
Je pense que ça se dit Oyonna, non?
Ben je pense, oui, parce qu'étant donné que c'est un peu dans le nord,
parce qu'on dit les Oyonna. Donc je sais pas.
Pour avoir un très bon ami qui vient du Haut-Bugey, on dit Oyonna.
Voilà, donc on dira.
Merci, Monsieur Culture.
Merci, voilà. Mais c'est un peu, oui, c'est un peu notre Laurent Romeshko à nous. grand mince à lunettes.
Par contre, voilà. J'ai pas d'amis en Normandie, donc si un jour on doit faire les clubs de foot, je pourrais pas avoir d'idée pour la présentation.
Non, mais on a Anne-Françoise.
Ah, mais moi je peux faire.
Hein. Après, c'est le foot, Anne-Françoise, c'est Nantes entre 80 et 90.
Oui. Il faut connaître les villes, c'est tout.
Après, je connais les villes quand même.
Ah oui, Plouguenec, Kouvarnec et Dikenec. C'est tout. Après, il y en a.
Globalement, ça finit en Nec.
Voilà, c'est ça.
Ou en Hack.
Ouarak aussi. C'est bien, les clichés sur la Bretagne, c'est fait. De toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Bretons qui nous écoutent. Et s'il y en a, eh bien on les embrasse.
Peut-être mes parents.
Peut-être vos parents et peut-être ceux qui sont de Vannes aussi.
Oui.
Qui,
et mon grand-père.
Et ton... Voilà,
ah bah
et
voilà,
mon
c'est la
aussi,
famille.
Qu'on embrasse aussi. Au programme de cette heure, petit retour en arrière sur les performances sportives, évidemment, bonnes ou mauvaises, dans les tops et les flops de l'équipe du jour. Ça y est, elle est arrivée en France. La flamme olympique sera de passage dans l'entretien de la semaine avec Thierry Lagoutte, président du club de judo d'Auch et porteur de la flamme olympique à Auch le 18 mai prochain. Il nous parlera de comment ça s'est déroulé et surtout de l'émotion qu'il ressent là maintenant à l'heure actuelle. Ce sera dans quelques minutes. L'équipe du jour s'est posé une question ce week-end. Quels sont les possibles successeurs au Stade Toulousain en 2024? Les Rouges et Noirs sont passés leaders de top 14 ce dimanche, on le verra dans le flash info qui arrive juste après. Et donc, une question qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme un ballon sur le terrain. Qui, pour succéder au Stade Toulousain, peut-être le Stade Toulousain lui-même, on essayera d'y répondre dans quelques minutes. Et puis, on terminera avec un pronostic et une analyse d'un match de ce week-end. Tout ça, ça arrive juste après l'actualité sportive en région avec Corinne Saint-Félix.
L'Infosport avec Corinne Saint-Félix.
Et on commence avec du rugby et le Stade Toulousain qui a renversé le Stade Français hier à Ernest Vallon.
Une victoire 49-18 qui permet aux Rouges et Noirs de ravir la première place du top 14. Le Stade Français n'avait pas perdu contre le Stade Toulousain depuis 3 ans. Prochain match du Stade à Montpellier le samedi 18 mai à 15h. Ce sera le dernier match avant la finale de Champions Cup contre Leinster le samedi 25 mai à 15h45. De son côté, Pau se rapproche du top 6. Les Palois ont battu 39-17 Oyonnax.
Le Toulouse FC a renversé de manière inattendue en Ligue 1 le leader, le Paris Saint-Germain.
Ce devait être un match sans enjeu, clôturé par la cérémonie de remise du trophée de champion de France de Ligue 1 au PSG. Sauf que le match s'est soldé pour cette 33e journée par une victoire surprise des Violets pour le tout dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes. C'est d'ailleurs ce dernier qui a ouvert le score dès la 8e minute. Et réplique de Toulouse avec Tijs Dalinga, Yann Boho et Franck Magri. Score final 1-3. Toulouse, qui n'avait plus gagné au Parc depuis la saison 2008-2009, remonte à la 10e place de Ligue 1. Vendredi soir, le Pau FC s'est en Ligue 2 incliné face à Bastia 1-2 pour son dernier match de la saison au Noustecamp. Cela n'a pas empêché le public de fêter l'effectif 2023-2024. Auteur d'une saison remarquable avec un maintien assuré déjà depuis quelques semaines et un record de points en Ligue 2 à la clé, 51 points.
Toujours en foot, l'entraîneur de Rodez, Didier Santini, remarqué dans son rôle d'entraîneur.
Le Ruthénois figure parmi les 5 prétendants au titre de meilleur entraîneur du championnat qui sera remis ce lundi 13 mai lors de la cérémonie des trophées UNFP. Cette nomination célèbre à la fois la saison surprenante du RAF, 5e avant l'ultime journée, et le parcours étonnant de ce coach de 55 ans qui a découvert le monde professionnel au cours de la saison dernière. L'entraîneur du RAF ne fait cependant pas figure de favori en comparaison au parcours du Haut-Garonnais Christophe Pélissier, champion avec Auxerre, lui aussi en course pour le titre.
Un dimanche sous le signe de la course pédestre en Aveyron avec le Novial Trail.
À Novial, les coureuses et coureurs sont passés entre les gouttes hier. Le comité d'animation du village organisait 2 trails en parallèle de sa fameuse rando rallye VTT, un de 16 km et un de 10. Et ce dernier servait de cadre à la 8e manche du Challenge Aveyron. C'est Raphaël Briand qui l'a emporté en 52 minutes 13 secondes chez les hommes et Chloé Boud en 1h 10 minutes et 48 secondes chez les femmes.
Et finissons avec la flamme olympique qui traverse notre région en fin de semaine.
Elle annonce l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024 et passera le 17 mai en Haute-Garonne. 7 parcours exceptionnels dans cette ville du département seront visibles par le public avec un temps fort à Ernest Vallon. Le lendemain, le 18 mai, elle sera de passage dans le Gers pour 7 nouveaux parcours. Le 19 mai, ce sera au tour des Hautes-Pyrénées avec 6 nouveaux parcours dans le département.
On va aussi, j'ai oublié de parler, merci beaucoup Corinne, on vous retrouvera dans 15 jours, après une petite vacance, une petite semaine de vacances pour Corinne. On va retrouver les notifs aussi, le retour des notifs, j'ai oublié de le dire dans la présentation, mais comme ça au moins c'est fait. Quelque chose dont on n'a pas oublié, l'existence, c'est les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Et puisqu'il est prêt et il nous a bien teasé son moment top et flop, Erwan, on vous écoute.
Ah, merci de me donner le premier round.
Je vous donne la flamme.
Ouais, merci, merci, ça me fait plaisir.
Ah,
du coup, pour le top, je voulais parler de la finale de National 2 en rugby qui opposait donc Marc Camborol. Je crois que je dis mal.
En bas rugby.
Mais voilà, exactement. Et donc face au stade Langonnet, une petite équipe de Gironde, mais je dis petite, mais c'est plutôt dans la taille de la ville que je parle, parce que c'est pas dans les actes. Il faut savoir que le stade Langonnet est déjà monté de Fédéral 1 à National 2 l'année dernière et là vient d'obtenir le titre de National 2 lors de sa première année en National 2 et va donc connaître la Nationale, donc l'antichambre du rugby professionnel, sachant que en réalité en National quasiment toutes les équipes sont déjà professionnelles. Et Langon, c'est une ville de, à votre avis, combien d'habitants?
3000
Moi j'en ai 1742.
Non, 7000 habitants, ah. C'est au-dessus, bah, oui, ça reste 7. Qu'on est quand même...
Petite ville quand même.
Ouais, on est quand même sur la petite ville où on peut mettre à peu près 2 fois la population de la ville dans le stade Ernest Vallon, voire plus même.
Hein. Oula, sa chambre là.
Y compris les vaches.
Non, mais c'est pas du tout pour chambrer, c'est pour marquer le fait que l'exploit il est fou et que c'est une équipe qui arrive à avoir un projet sportif extrêmement bon, extrêmement cohérent et qui lui permet de prétendre à la Nationale et qui lui permettra peut-être de défendre ses armes pour une éventuelle montée en Pro D2, mais bon, faut rester quand même un peu humble, parce qu'il y avait le 16 Vienne qui avait eu un parcours un peu similaire ces dernières années, et qui donc là a joué en National cette année, et qui a fini, si on exclut Blagnac, qui a fini dernier, oui. Parce que,
bilan,
ouais. 16 Vienne a fini dernier, donc juste devant Blagnac, pour le coup, il devra disputer un barrage contre Marc en...
Bareuil.
Voilà, merci. Et voilà, avec une finale absolument incroyable où il y a eu du beau jeu dans la première mi-temps. Et puis, une fois arrivé à la mi-temps, le ciel a commencé à s'assombrir. À la 40e minute de jeu, il y avait encore quelques rayons de soleil. Donc, c'est-à-dire dès que l'arbitre a sifflé, le retour au jeu. À la 41e minute, il commençait à y avoir du gros ciel gris. On voyait que la luminosité avait baissé si on remontait avant.
Ouais.
À la 42e minute, il y avait beaucoup, beaucoup de vent. Comme disait le commentateur, à en décorner les bœufs. Et à la 43e minute, alors là, on voyait même plus le terrain. Il y avait de l'eau partout. Il y avait une pluie torrentielle. La diffusion du match a même été coupée pendant quelques minutes, puis est revenue. Et ensuite, quand on a vu les joueurs jouer, c'était dans une mare de boue géante. Alors, il y a eu un superbe drop de l'ouvreur, donc de Langon, qui a permis de sécuriser un peu le score et de leur permettre de décrocher ce titre national. Mais en tout cas, c'est une super histoire des petits clubs, comme les phases.
Ah, ça, vous nous faites rêver toujours avec ces petits clubs. C'est vraiment.
Sûr. Et comme les phases finales, surtout amateurs, ne savent que bien le faire.
Mais regardez le résumé de ce match, en effet, il est assez intéressant et assez épique avec ses conditions météorologiques.
Je me mets à la place de la personne qui a fait une sieste entre le début et la fin.
C'est ça,
il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce
Il y a eu un glissement d'argile.
Clairement, ils finissent dans un pédiluve. Quoi, donc,
ah yes,
la personne qui est partie aux toilettes entre la 41e et la 43e minute n'a pas dû comprendre ce qui s'est passé.
Il fallait que ça soit très rapide alors. C'est bien. Et du coup, on imagine tous les joueurs glisser dans la boue.
Alors, il avait, pour le coup, heureusement, il avait arrêté de pleuvoir. Donc en Essonne, parce que le match avait lieu en Essonne, il avait arrêté de pleuvoir à la fin du match. Les joueurs se sont juste jetés les uns sur les autres, se faire des câlins.
C'est les copains.
C'est
les copains. Et en flop, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé?
En flop, j'ai décidé de mettre le PSG, parce que ça me permettait de mettre aussi un peu à l'honneur le TFC. Donc de dire que voilà, c'est quand même pas rien de gagner 1-3 chez les Parisiens. Mais je voulais mettre en lumière la semaine un peu catastrophique du PSG, donc c'est-à-dire les derniers jours, éliminé donc de la Ligue des Champions avec une demi-finale retour assez triste quand même contre Dortmund à domicile, Paris perd en plus donc l'annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG qui est officiel. En plus, après, ça c'est un peu plus pour les supporters parisiens, puis il y en a quelques-uns qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils sont dans le coin, mais voilà, le départ du speaker du stade qui était là depuis 30 ans, et qui donc ne commentera plus les buts, et qui a eu l'occasion d'ailleurs de soulever le trophée de la Ligue 1. Marquinhos l'a laissé soulever à ses côtés le trophée de la Ligue 1.
C'est sympa.
Pour la photo officielle. Et donc voilà, et donc avec cette défaite à Toulouse pour le dernier match de la carrière de Kylian Mbappé au Parc des Princes, sauf s'il revient peut-être un jour au club, mais pour l'instant, c'est pas prévu.
Par exemple, dans un cadre de match de Ligue des Champions, peut-être, mais dans une autre équipe.
Peut-être, voilà. En tout cas, avec les couleurs du PSG, son dernier match.
Oui, c'était oui.
Donc voilà, une bien sale soirée, et puis aussi avec notamment Keylor Navas, qui n'a même pas joué pour son dernier match au Parc des Princes, qui n'a même pas rentré les 15 dernières minutes. Et Luis Enrique, qui a dit en conférence de presse qu'il n'était pas au courant que c'était le dernier match de Keylor Navas.
Des fois,
le gars qui prend bien soin, quoi.
On se plaint souvent tous dans nos boîtes du manque de communication.
Ouais.
Là, quand même, bon.
On est pas mal.
Mais là, c'est le top du top.
C'est du beau.
Et donc voilà, je suis un peu déçu de cette fin de saison, de ce qui est un peu l'ambassadeur du football français.
Ouais, c'est un peu bof-bof, quoi.
Et c'est bien, ça veut dire qu'on va pas manger tout l'été du... Où est-ce que Kylian Mbappé va quitter Paris? Et si oui, où il va aller?
Non, mais on va là, on sait qu'il part. On va manger de... Est-ce qu'il va faire les JO ou pas?
Alors, il y a de fortes chances qu'il ne les fait pas.
Même
qu'il fasse pas
fait
les JO.
Même le président Emmanuel Macron fait désormais des vidéos pour essayer de refaire tout le monde s'entendre qu'il va signer au Real Madrid. Donc, à ce niveau-là...
Oui, très mauvais en secret. Hein. On lui laissera pas cacher les autres packs, lui. voilà, en tout cas, merci beaucoup, Erwan, pour nous avoir fait voyager... aujourd'hui. Coraline, j'ai vu une fiche avec marqué top et flop qui était très très longue.
Non, mais c'est écrit en gros, c'est tout.
Ah. Oui, c'est les loupes à la place des lunettes. C'est bien, on vous a mis vous aux manettes, donc si vous y voyez plus rien, ça va être compliqué, je pense.
Bah écoutez, là je suis la deuxième plus âgée, donc vous voyez.
Allez.
Mamie. Bon, bref.
Mère Castor, racontez-nous une histoire.
Elle va vous raconter son top qui est pour Thibaut Domagna. Un joueur dont on entend peu parler, un demi de mêlée, certes il y a meilleur à son poste, mais je voulais le mettre en avant pour sa fidélité envers la section paloise. Il disputait samedi son 250e match avec le maillot vert et blanc. Il a eu sa licence en 1999 alors qu'il n'avait que 5 ans. Il n'a depuis jamais quitté la section. Une fidélité pour son club comme celle-ci, c'est pas exceptionnel, mais ça tend à se raréfier. Pour son 250e match, il la marque en plus un très bel essai, un sprint de 90 mètres à la suite d'une relance. Voilà pour mon top. Et mon flop, c'est toujours du rugby, mais c'est pour le public de Perpignan. Tout avait pourtant très bien commencé en terre catalane samedi. Une ambiance de feu à Aimé Giral pour encourager les joueurs de l'USAP. Ces dernières semaines, les supporters perpignanais ont fait parler d'eux en bien, avec un déplacement notamment à Montpellier lors de la précédente journée avec plus de 4000 supporters.
C'est pas très loin, oui. Perpignan-Montpellier.
Perpignan-Montpellier, il y a 3 heures à peu près. Ouais. Enfin, avec les bus, ça fait peut-être un peu plus du coup, mais ouais, c'est quand même énorme, 4000 supporters. On entendait plus les Perpignanais que les Montpelliérains. Pas compliqué. Cette fois-ci, malheureusement, ils font parler d'eux et pas en bien. Dès la 56e minute, suite à un carton jaune pour plaquage haut donné à un Catalan, les sifflets se font entendre. 70e minute, deuxième carton jaune et les premières insultes envers l'arbitre se font également entendre. Insultes prononcées par de bon nombre de personnes. C'est quand même quasiment tout le stade qui chantait là pour le coup. on suivra encore un troisième carton. De mon point de vue, les cartons, ils sont pas discutables. Plaquage haut, faute cynique dans la zone des 5 mètres, et encore plaquage haut. Même Franck Azéma, l'entraîneur de l'USAP, a lui-même dit que il y avait rien de contestable sur l'arbitrage.
Il fallait pas se cacher derrière l'arbitrage.
Ouais. Exactement, qu'il y avait rien à dire. L'arbitre Jérémy Rosier a dû être escorté vers la sortie à la fin du match pour des jets de gobelets à son encontre. Victoire donc de Clermont 28-35. Alors certes, avec cette défaite, leurs chances de qualification pour le top 6 sont bien plus faibles, mais remettant l'église au centre du village, le sport, c'est le respect de l'adversaire, de son public, mais aussi de l'arbitre.
Il y a eu un écho aussi comme ça à Ernest Vallon, où le speaker du stade a dit aux supporters d'arrêter de chambrer
les Parisiens.
Oui, voilà. Exactement, tout à fait.
Bon, deux fois, mais je trouve que ça a été...
Ça a été rapidement respecté. Voilà.
Exactement, moi je trouve que c'est bien que ce soit dit... Après, l'ambiance de la soirée fait que, on sait que dans l'ambiance classico,
Oui. Mais après, ça faisait un moment que Toulouse n'avait pas gagné contre le Stade français
à
Toulouse.
Ouais, 6 matchs.
3 ans.
Donc,
moi, je trouve que c'est bien que
tant
ce
que
ce soit
pas insultant.
Non, mais voilà, c'est le rôle aussi du speaker quand ça dérape, de remettre.
Oui, après, déraper Ernest Vallon, on comprend pourquoi des fois ça rompiche un peu dans les tribunes. Du coup, si on dit arrêter quand ça fait eux, ils sont où les Parisiens? Bon,
mais là pour le coup, à Perpignan, c'était pas ce genre de.
C'est pas du tout la
c'était,
même.
C'était vraiment
pas la même division.
Exactement.
C'était vraiment très, très insultant. La musique plus forte que les.
Voilà, c'est ça.
C'est
et puis,
ça.
Généralement, faut pas pousser le bouton trop haut. Merci beaucoup, Coraline, pour ce top et flop rugbystique. Voilà, on demande des mots aujourd'hui. Et puis, Anne-Françoise, vous, qu'est-ce qui vous a marqué le week-end dernier?
Alors moi je vais commencer par mon flop, je vais vous parler du passage de la flamme à Marseille, alors pas du tout pour commenter la qualité du célèbre musicologue Jules, parce que en fait je dois vous avouer que j'ai jamais écouté un truc de lui, donc je serais bien mal placée pour savoir si c'est bien ou pas qu'il porte la flamme. Par contre, les commerçants de Marseille, pour fleurir le passage et rendre la zone plus attractive sur le passage de la flamme, en fait ils trouvaient que les arbres manquaient un petit peu de fleurs. Donc ils ont rajouté des fleurs dans les arbres, mais des fleurs en plastique.
Pétrole.
Et des fleurs en fait qui du coup tombaient à cause du vent. Et vous savez que...
Étonnant à Marseille.
C'est incroyable. Wow. Et puis en plus, qu'est-ce qu'il y a juste au bord de Marseille? Il y a la mer, en fait. Donc, donc en fait, les fleurs vont toutes finir à la mer. Et en fait, elles sont assez réalistes. Et l'inquiétude des protecteurs de la nature, c'est qu'en fait, il y a plein d'animaux qui les mangent. Et donc, ça fasse un petit peu la petite catastrophe écologique juste pour rendre plus attractif. Ils auraient pu les décorer avec, des serpentins de papier.
Oui, des rubans.
Enfin, voilà, ils auraient pu faire des lumières.
C'est très joli aussi.
Je ne sais pas,
en plus, avec le vent, ça aurait été beaucoup plus joli.
C'est ça. Et en fait, moi, j'ai vu l'info, il y a même des entreprises qui proposent de louer en fait des grosses plantes en pot très jolies, etc.
Oui,
ça aurait pu être fait, mais là non, le choix a pas été très écolo.
Erwan, vous, le journaliste sans frontières, le maire de Marseille, il n'est pas écologiste? Non, c'est le maire de Bordeaux, pardon.
Non, c'est Bordeaux. Ah, oui.
C'est Bordeaux.
Ouais, ouais.
Bon, ben raté.
On pourra reparler du maire de Bordeaux qui choisit de remplacer le sapin par
un sapin
construction
en, verre.
En métal et en verre. Mais enfin, on en parlera un autre jour, ça n'a rien à voir avec le sport.
Voilà. On sent qu'il y a un côté écologique qui veut ressortir.
Un petit peu.
Du coup, qu'est-ce qui vous a plu?
Et en top, je voudrais parler du match du Stade Toulousain hier. Parce qu'en fait, on a vu rentrer sur le terrain... Alors, on peut la qualifier un petit peu d'équipe B, parce qu'il y avait quand même les grosses stars qui étaient quand même absentes. Bon, Dupo est resté sur le banc. Il n'est même pas rentré, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'équipe du Stade Toulousain se permet de laisser Antoine Dupont sur le banc. C'est formidable.
Il est allé chauffer en 2-3 fois, et à chaque fois, il s'est rassoui.
C'est ça. Il a quand même fait le tour d'honneur, hein, parce que voilà. Mais du coup, on a revu des gars comme Paul Graou, par exemple.
Il paraît que même pendant le tour d'honneur, il a marqué un essai. Donc ça veut dire à quel point il est fort.
J'ai appris que Rodrigue Netti n'avait jamais marqué avec le Stade Toulousain.
Et oui, il a failli. Il était à deux doigts.
Il n'avait jamais marqué. Bah ouais. Il n'a jamais marqué.
L'info
de sa
à peu
carrière.
Près.
Incroyable.
Il a presque marqué. Presque. C'est dommage.
Ah, non, mais en fait, c'est le cas de beaucoup de
bah, d'avant.
Hein. Ouais, ouais, c'est ça, exactement.
Bah, sauf, à part le talonneur, j'ai envie de dire.
Non, mais à part le talonneur, ouais. Malheureusement.
Quand on a passé 10 ans à être, à quand même jouer souvent, il a presque, je pense qu'il a plus de 100 matchs largement en redéfinissant le Stade Toulousain. Pas avoir marqué un essai sur un pick and go, c'est quand même un peu triste. Voilà, j'espère pour lui qu'un jour il en marquera.
Ça a failli, peut-être.
Voilà. J'espère qu'un jour il marquera un essai de 30 mètres.
Voilà. Oui, évidemment.
Ça serait pas mal si tous les autres sont partis à la buvette. Mais
c'est ça, oui.
Non, non, en fait, mon top, vraiment, il était pour Malia, qui a vraiment très bien joué. Je trouve que ce joueur, en fait, c'est vraiment le couteau suisse. C'est-à-dire que vous le mettez en centre, ça fonctionne bien. Vous le mettez à l'aile, ça fonctionne bien. Vous le mettez en 10, ça fonctionne super bien. Non, vraiment, il nous a bien régalé là, hier soir. Voilà. Et moi, je trouve ça super chouette, mais on en reparlera peut-être pendant le débat. Bah voilà, que Toulouse puisse aussi performer sans les énormes stars qu'on lui connaît.
Et oui, et ça va nous faire enchaîner sur le débat juste après, parce que oui, si avec l'équipe B, Toulouse roule sur le premier de top 14,
va falloir, qu'est-ce que ça veut dire,
va falloir faire rentrer les U19, peut-être, voilà, peut-être.
Pour laisser une chance.
Oui, pour que ça soit un petit peu plus rigolo. Hein,
c'est ça.
Voilà, bon, on va essayer d'y répondre après, mais je suis sûr qu'Erwan a plein d'arguments à donner dans le débat qui arrive. Juste après l'entretien du jour, on parle de la flamme olympique avec un porteur de flamme tout de suite.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, dans Esprit Sport, nous recevons Thierry Lagoutte, président du Judo Club Occitan. Bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour à vous, bonjour à tous.
Alors, on vous retrouve du côté d'Auch, dans votre club de judo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Depuis quand il est là, ce club?
Le Judo Club Occitan était un des premiers clubs créés dans le Gers en 1952 par M. Lacave. Donc ça a été un des premiers clubs sportifs gersois pendant des années. Il a été porté par un professeur un peu emblématique qui était Gilbert Pérez, qui a fait de nombreuses compétitions, qui a été présélectionné aux Jeux Olympiques de Munich. Donc c'est un club un petit peu porte-drapeau du judo dans le Gers depuis quelques années.
Un porte-drapeau, ça du côté du judo, ça parle beaucoup. Quand on dit judo, on pense de suite, alors peut-être David Douillet, peut-être Teddy Riner et Clarisse Agbeninou. Est-ce que est-ce que dans cet aspect olympique, la flamme qui va passer pas très loin du Gers, est-ce que vous... Bah,
Elle passe à Auch
en plus. Ah ben génial.
Le 18 mai. Et c'est peut-être un scoop, je viens de recevoir un mail de Paris 2024 et je vais être porteur de la flamme olympique.
Eh bien voilà, merci. Nous avons un porteur de flamme olympique aujourd'hui dans l'émission. Déjà félicitations. Comment ça s'est passé cette annonce? Comment vous en êtes arrivé à porter la flamme olympique à Auch?
D'abord, j'ai été parrainé, donc on m'a proposé, on a été, je pense, 15 000 à être proposés. Sur ces 15 000, il y en a eu 5 000 qui ont été tirés au sort. Et après, dedans, il fallait marquer notre parcours sportif, notre implication dans le monde du sport olympique et après mettre une petite anecdote du sport qu'on avait vécu. Et sur ces 5000, on a été retenu que les gens qui avaient entre 22 et 25 sur 25. Voilà, j'ai eu la chance d'être retenu.
Comment l'annonce a été faite dans votre club?
L'annonce, ça a été, j'ai reçu un mail et donc après personnel et après c'est moi qui l'ai présenté au club et donc tout le monde était très content pour moi et moi j'étais très 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 fier.
Voilà, on va revenir sans doute que c'est une belle fierté et c'est un beau palmarès, c'est un beau palmarès pour votre club et pour vous aussi. Justement, votre club, à quel âge on peut commencer à pratiquer le judo chez vous?
Alors le judo a été un des premiers sports à présenter le baby judo. Le baby judo, c'est surtout de l'éveil, hein, donc entre 4 et 6 ans. Voilà, maintenant, depuis quelques années, beaucoup de disciplines sportives présentent une fourchette entre 4 et 6 ans. Mais nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on propose du judo entre 4 et 6 ans. Donc voilà, on peut démarrer à 4 ans et on a la coutume de dire qu'on finit le judo mais quand on meurt.
Ah oui, d'accord. Ouais, ça fait une belle carrière, du coup.
Voilà.
La carrière d'une vie. Comment, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, comment le judo peut contribuer au développement personnel de ceux qui le pratiquent ?
Alors, on a la coutume de dire que le judo est une forme d'éducation. Ce n'est pas simplement qu'un sport. Il y a un monsieur là qui est devenu la voix du judo, qui s'appelle Frédéric Le Canu, qui est un ancien sportif de très haut niveau, qui a été champion d'Europe, qui l'a très bien expliqué dans une interview qu'il a fait dans La Voix du Sport, je crois, un jour, et qui disait qu'on a eu la chance d'avoir de connaître la personne, du moins pas physiquement, mais de connaître la personne qui a créé le judo, qui est Gilbert, qui est monsieur Cano, Jigoro Cano, en 1882. Et il avait créé ça simplement pour éduquer les gens et pour les amener à devenir meilleurs. Meilleurs autant au niveau sportif qu'au niveau intellectuel et qu'au niveau de la vie sociale. Voilà. Donc le judo est une forme d'éducation avant d'être une discipline sportive.
On retrouve beaucoup de points communs avec d'autres sports comme le karaté. On a reçu aussi un pratiquant du Viet Vo Dao il y a quelques semaines, là aussi un art martial vietnamien. Il y a beaucoup de valeurs communes ces pratiques un petit peu ancestrales, j'ai envie de dire, parce que ça fait des siècles que le judo, le karaté et compagnie sont pratiqués, et ça fait énormément d'années que le judo est aux Jeux Olympiques. Comment le judo arrive à se renouveler pour chaque Olympiade, se retrouver une nouvelle fois nommé dans ces épreuves?
Ah, ça, c'est un petit peu un paradoxe français, parce que jusqu'à quoi, 4-5 Olympiades, donc le judo n'était pas aussi mondialement connu. Et donc il y avait quelques nations phares telles que le Japon, la France, le Brésil et quelques pays européens. Et là, maintenant, on retrouve des nations avec l'éclatement de l'URSS, beaucoup de pays de l'Est. Ils sont présents, beaucoup d'autres pays dans le monde, avec la Corée qui s'y est mis. Et c'est vrai que pour avoir un athlète d'exception dans chaque catégorie, c'est quand même très, très difficile. Donc ça, c'est peut-être la formation française, un petit peu, avec de temps en temps des passages à vide, mais sinon, on surfe sur l'eau de la vague. Et puis après, des athlètes d'exception, comme que vous les avez cités, David Douillet, Clarisse Agmenenou, il y a eu Lucie Décosse.
Aussi, oui, Lucie Décosse, ouais.
Voilà, et là, on a eu la chance d'avoir le plus grand judoka au monde, là, qui est Thierry Riner, qui, on espère, va accrocher la troisième médaille olympique en individuel.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un savoir-faire dans la pratique du judo en France ? Est-ce qu'il y a une véritable passion pour le judo en France ?
Je pense qu'il y a une véritable passion, et puis il y a des gens... J'ai eu la chance de rentrer dans ce monde-là, et il y a des gens passionnés et passionnants. Il y a vraiment des gens hors normes qui portent le judo et qui ont des valeurs et qui essaient de tirer les gens vers le haut. Et en plus, je vous dis, surtout, qui essaient d'éduquer toute une frange de la population. Et même si vous rentrez dans un dojo, c'est pas forcément pour aller chercher l'élite, mais pour vous rendre meilleur. Et tous les profs qui sont dans les dojos essaient de vous amener à ça. Et de temps en temps, on détecte quelqu'un qui a une fibre de champion et qui permet de s'épanouir dans les cadres qui lui sont donnés.
Les JO, on en revient une nouvelle fois. Est-ce que ça impacte votre club en particulier ? Alors du coup, cette année, oui, puisque oui. La flamme va y passer et qu'on pense que tous les pratiquants vont venir vous voir porter cette flamme. Mais est-ce que après chaque Olympiade, vous sentez un engouement qui arrive vers votre club ou le judo en général ?
Tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. Surtout si les résultats sont positifs, plus il y a de médailles, plus il y a de personnes qui regardent le judo à la télé. Nous, on a, en année post-olympique, on a entre 20 et 25% de plus de licenciés chaque année, ça c'est sûr. Oui.
C'est sûr, il y a des gens qui s'y identifient, ben, assez sportifs d'exception, que ce soit Teddy Riner, Lucie Lagos, comme on vient de le dire.
Et puis en plus, Clarisse Agbenienou, voilà, beaucoup de femmes. Maintenant, il y a eu David Douillet il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans même. Est-ce que vous trouvez que maintenant, les filles ou les femmes viennent plus vers le judo à travers des exemples, des modèles comme Lucie Descosses ou Clarisse Agbenienou?
Oui, il y a beaucoup. Dans les jeunes, maintenant, on a presque une part, quand même plus de jeunes filles qui viennent essayer le judo. Elles s'identifient, oui, à ces modèles-là, et puis elles ont envie de performer. Oui, il y a beaucoup plus, presque plus de filles que de garçons maintenant dans certaines.
Ah, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons ou l'inverse?
Au minimum, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Oui, non, c'est vrai que, comme on disait un petit peu avant, c'est vraiment une forme d'éducation. Donc, et comme on arrive par des catégories d'âge, de poids, donc on arrive à faire pratiquer cette discipline à toute forme de personne.
Oui, parce que du coup, tout le monde ne se rencontre pas comme ça. Il y a des catégories de poids, de plus léger au plus lourd. Comment vous arrivez à vous organiser? Est-ce que vous arrivez à avoir autant de pratiquants dans chaque catégorie et du coup de présenter des pratiquants à des concours?
Non, c'est assez difficile. Donc, on est quand même une ville moyenne. Donc, on n'est pas un très, très grand club. On a entre 120 et 130 licenciés. On a des catégories légères et des catégories lourdes qui sont un petit peu moins étoffées. Mais on accueille tout le monde et on essaie de faire pratiquer à tout le monde.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver, justement, pour tous ceux qui veulent s'initier au judo? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone, un site, un Facebook, peut-être, des réseaux sociaux?
Le site sur Facebook, Judo Club Occitain. On a une adresse mail qui est jca@orage.fr. Et sinon, le numéro de téléphone, c'est le 06 07 08 75 70.
Et allez, deux dernières questions. Comment vous voyez les perspectives d'évolution sur l'avenir du judo dans la région en particulier?
Bah, les perspectives, on a une catégorie d'âge qui est en train de prendre vraiment corps, ce sont les vétérans. Le judo, comme on peut le pratiquer très tard, et que heureusement, l'espérance de vie a augmenté, et puis de vivre en très très bonne santé. On a des judokas qui, jusqu'à 65-70 ans, participent encore à des compétitions qui leur sont dédiées, et c'est vrai que cette pratique du judo vétéran est en pleine évolution. On a beaucoup d'anciens judokas qui reviennent au club et qui reviennent avec une grosse envie de compétition, mais une grosse envie de pratiquer, une grosse envie de s'être étalonné avec d'autres judokas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de prendre corps sur tous les clubs et sur toutes les régions. Donc je pense que c'est une catégorie d'âge qui va nous permettre de pérenniser nos clubs, parce qu'après ça devient des gens qui rentrent dans les bureaux, qui viennent nous aider et qui amènent leurs enfants et voire leurs petits-enfants dans les clubs.
On va se projeter à la remise de médailles. On ferme les yeux, on entend peut-être une Marseillaise, médaille d'or, homme, femme, dans les catégories. Est-ce qu'on se mouille au pronostic avec vous?
Dans les hommes, je pense que dans le plus léger, il y a Mekete qui a fait 3 aux Jeux de Tokyo et qui peut aller chercher la médaille d'or. Et dans le plus lourd, Teddy Riner qui peut aller chercher aussi sa 3e médaille d'or. Et chez les filles, heureusement, toutes les catégories, elles sont dans les 5 premières mondiales. Et je pense que dans toutes les catégories, que ce soit des moins de 48 aux plus de 78, elles ont toutes une chance d'être médaille d'or. Donc je pense que ce sera une belle moisson de médailles pour la France au JO de Paris.
Voilà, donc on vous encourage à suivre les sportifs français en général et ceux du judo aussi, puisqu'il y aura du spectacle et des médailles au bout du compte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thierry Lagoutte. Je le rappelle, vous êtes président du judo club Occitain. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et bon courage et belle année.
Et merci à vous.
Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de hauteur. À tout de suite avec Elton John, c'est Rocketman. On se retrouve juste après pour la question de la semaine.
And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuse out of every home. And I think it's gonna be a long, long time to touchdown brings me round again. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
Alors Rocketman, est-ce que vous avez vu le film d'ailleurs de
oui.
Rocketman?
Super.
Est-ce qu'il est bien?
Il est génial.
Non?
Pas vu.
Pas vu. Ben voilà.
Pas vu. Bon, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on regarde la prochaine fois.
Ben voilà. Oui. Et puis on a écouté l'émission cinéma la semaine dernière. Non, c'était l'émission souvenir. L'émission cinéma, ce sera la semaine prochaine. Il y a aussi des conseils cinéma et sport en même temps. Voilà, ça c'est distillé avec plaisir. Allez, tout de suite, on passe au notif. On est toujours harcelé de notifications sur le téléphone et tout le monde autour de cette table en fait partie. Première notification. Voilà. Dax, premier promu a joué les barrages d'accession en top 14. Dax a été promu de Fédéral 1 à en Pro D2 cette année. C'est la première saison de Pro D2 qu'ils font là. Et ils sont arrivés dans le top 6. Donc,
ils ont fait la même que Langon, en fait, si j'ai bien suivi.
En plus haut.
Voilà, plus haut. Mais ils ont fait deux accessions.
Peut-être que dans deux ans, quand Langon sera en Pro D2, peut-être qu'ils feront la même chose.
Voilà. Peut-être, mais Dax ne veut pas et n'ira pas en top 14 parce que Dax n'a pas le stade Maurice Boyau n'est pas assez grand.
Ouais.
Et puis,
il faut les moyens quoi. Ouais.
Mais ils veulent et pas aller jouer à André Guy Boniface.
Non, ils sont très attachés à Marcel, à Maurice Boyau.
Je
et
rigole bien
et...
sûr. Oui, je veux pas de Landais, de toute façon, il y en a pas beaucoup, mais Landais devant ma.
Voilà les Dacois qui ont fait une très belle saison et. Et puis voilà, on les embrasse, on sait qu'il y en a qui nous écoutent du côté d'Agetmont. Voilà, c'est à côté de Dax. Nouvelle notification. Montauban, vainqueur, enfin, à domicile, c'est face à Mont-de-Marsan, l'USM. Petite question, est-ce que l'USM peut-il sauver sa place en Pro D2 face à Aurillac ce week-end?
Ce qui veut dire faire tomber Biarritz.
C'est, oui,
ouais.
Parce que si Biarritz, mais Biarritz ils sont vraiment pas bien là.
Oui, alors c'est-à-dire que si Biarritz, ils sont sur une...
si Biarritz perd et que Montauban gagne, Montauban ne jouera pas le match de barrage.
Ouais.
Contre soit Nice, soit Narbonne.
Pour Biarritz, c'est dur de se motiver à aller au match quand les douches sont froides. Voilà. Il n'y a pas d'eau chaude, c'est compliqué.
C'est bien. Voilà. Le club est à acheter pour 1€ sur le bon coin. Si
le
jamais.
Club a été acheté.
Par
3 anciens joueurs, du coup pour 3€, parce qu'ils ont tous donné 1€.
C'est gentil.
Attends, ils ont triplé.
Quel investissement, c'est incroyable.
C'est fou, hein. Et Toulon est aussi à vendre pour 1€. Hein. Je sais pas si vous avez vu, Bernard Lemaitre a dit qu'il était prêt à vendre Toulon pour 1€.
Mais non.
Aussi.
Moi, j'ai
le
jeton.
Il dit juste qu'il attendait d'avoir le loiseau rare, comme il a dit. C'est-à-dire une personne qui avait les poches suffisamment profondes pour maintenir à flot le RCT, selon ses dires.
D'accord.
Pour une interview du Figaro.
Bah, très bien. Bah, comme ça, au moins, tout est dit. Donc, Montauban gagnait à Aurillac pour sauver sa peau, en espérant une chute de Biarritz. Non. Compliqué, hein.
Ouais, ça fait beaucoup de paramètres quand même. Mais bon,
ils sont pas maîtres de leur dessin malheureusement.
Ouais, c'est ça.
Pour le coup.
Mais il fallait assurer le reste de la saison d'ailleurs tant qu'on
ont fait une saison très compliquée.
Oui, tant qu'on est sur Montauban, la tribune honneur après 45 ans va être détruite et refaite. Ouais. D'où voilà une victoire importante de Montauban le week-end dernier face à Mont-de-Marsan. Nouvelle notification. La victoire de Toulouse face au PSG 3-1, le TFC qui clôture sa saison à domicile, à l'extérieur, à l'extérieur, en beauté, puisque le TFC jouera son dernier match de la saison à Brest. Brest
non,
qui joue
à Toulouse contre Brest.
À Toulouse contre Brest. Voilà, j'y suis arrivé. Du coup, est-ce que Toulouse peut empêcher Brest de jouer l'Europe? Il faut jouer le classement parce que j'ai pas
de jouer l'Europe, non, mais de jouer la Ligue des Champions. Théoriquement, c'est pas possible parce que le Brest jouera au moins les barrages de Ligue des Champions. En tout cas, Toulouse peut empêcher Brest d'avoir une accession directe à la phase de groupe de Ligue
des Champions. Parce que Brest est quatrième, donc ils devront faire. Ils sont à 58 points, Lille aussi. Donc si Brest gagne et que Lille perd, Brest serait directement qualifié en Ligue des Champions.
Je crois qu'ils sont relativement proches en différence de but.
Oui, ils sont. Brest est à -2 par rapport à Lille. Donc, c'est-à-dire que Brest a pris 2 buts de plus et a mis le même nombre de buts. Voilà, donc Toulouse peut empêcher Brest de jouer directement en Ligue des Champions. Sachant qu'il me semble, Erwan, corrigez-moi si je me trompe, que le stade de Brest n'est toujours pas homologué. Pour la Ligue des Champions, ce qui peut poser problème. Ils pourront jouer à Rennes, évidemment.
À Rennes, à Guingamp.
Voilà.
Oui,
parce que Guingamp joue la Ligue Europa.
Ah oui, stade de Guingamp, ça fonctionne.
Voilà.
Et d'ailleurs, Toulouse, qui a gagné à Paris, première fois que le TFC, en son histoire en Ligue 1, enchaîne 4 victoires à l'extérieur d'affilée. Et meilleure saison de l'histoire du TFC sur les performances à l'extérieur.
Incroyable. C'est vrai qu'à domicile, c'était un peu plus compliqué. Ce sera à voir. Et justement, on va parler dans cette dernière notification de foot, encore une fois. Beaucoup plus local que Brest. Et là, pour le coup, ça vous fait rire, parce qu'on va changer de pays. On va aller du côté de Gérone, en Espagne. C'est beaucoup plus près, du coup. Donc, si vous voulez aller voir des matchs de Ligue des Champions pas loin, eh bien, c'est à 3h, un peu moins de 4h. Et eux, ils vont jouer la Ligue des Champions, parce que leur stade, pour le coup, a été homologué. Donc, voilà. Si vous voulez entendre la Ligue des Champions dans un stade plutôt...
Moi je le trouve plutôt joli.
Atypique.
Oui. Par contre, il me semble qu'il y a toute une tribune qui est debout et du coup ils vont devoir mettre des strapontins. Oui. Vous n'avez pas le droit aux tribunes debout en Ligue des Champions.
Voilà. Donc, si vous voulez voir un match de Ligue des Champions, direction une petite heure après la frontière espagnole, et puis vous allez pouvoir entendre la musique de la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour les notifications. On les retrouvera sûrement dans 15 jours. Le débat tout de suite. Une question qui trotte dans la tête de tout le monde. Quels sont les possibles successeurs du Stade Toulousain en 2024? Alors, le Stade Toulousain est candidat à sa propre succession, évidemment.
Bah, clairement.
Ah, oui.
Ah, bah voilà.
Moi, c'était ma première réponse.
Donc, je sais qu'Erwan est un petit peu plus... réaliste, peut-être pas.
Circonspect.
Oui, très bien.
Mesuré.
Mesuré. Merci. Erwan, quels sont les possibles autres successeurs du Stade Toulousain, hormis le Stade Toulousain?
Alors moi, j'en ai un en tête plus particulièrement. Je pense à Bordeaux-Bègles, à l'Union Bordeaux-Bègles. Parce que tout simplement, ils ont fait une très mauvaise période de doublons. Ils étaient absolument pas habitués à être privés d'autant de joueurs de quasiment toute leur ligne arrière, en fait, pendant la période de doublons. Ils ont perdu 2 voire même 3 matchs. J'ai la mémoire du match contre le Stade Français et d'un autre match, je ne sais plus si c'était contre quelle équipe. Mais voilà, c'est très cruel, c'est des erreurs bêtes. Stade Français, c'est une sautée à la 78e minute pour sauter 3 joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles qui arrêteraient pile poil dans les bras de l'ailier du Stade Français.
Tu veux dire un peu comme l'essai que Aldrit a laissé passer ce week-end. C'est un peu bête aussi,
c'est d'Aldrit, et avec tout respect pour Aldrit, est un peu plus, on va dire, dommageable. C'est triste de voir des essais comme ça être mis, et surtout que ça nous fait penser, nous, du côté de Toulouse, à l'essai que Poitronneau a donné au
ASP. Poitronnade.
Voilà, il fallait le dire.
Poitronnade,
c'est vrai.
Un nouveau petit Robert sorti aujourd'hui, ouais. Il devrait y avoir Poitronnade.
La Poitronnade contre les Wasps.
Voilà. Et donc voilà, moi je pense que l'Union Bordeaux-Bègles peut faire un coup.
Il aura placé le petit Robert, c'est quand même assez. Excusez-moi, je vais couper.
Je pense que l'Union Bordeaux-Bègles peut faire un coup parce qu'ils ont une ligne de 3 quarts absolument flamboyante. De plus, si jamais ils ne se qualifient pas directement en demi-finale, sachant que la semaine prochaine ils affrontent le Stade Français, ce qui fait que si jamais ils les battent, ils leur prendront la place. Et que le Stade Français, déjà la saison dernière, s'était effondré complètement en fin de championnat, laissant sa place en demi-direct à La Rochelle qui avait pu aller en.
C'est vrai.
Qui avait pu prendre cette place-là. Donc voilà, là, si Bordeaux y va, ils ne rencontreront pas Toulouse, mais si jamais Bordeaux, par exemple, rencontre Toulouse en demi-finale, ça serait à Bordeaux, puisque les demi-finales ont lieu à Bordeaux. Le dernier match qu'il y avait au Matmut Atlantique entre Toulouse et Bordeaux, c'était pas forcément un beau souvenir du Stade Toulousain, alors qu'il y avait l'équipe type du Stade Toulousain. Pour moi, il y a quand même quelques équipes qui peuvent poser des sérieux problèmes à Toulouse. Je pense aussi, par exemple, à Toulon. Je trouve que c'est une équipe qui a des bons et des mauvais jours. Quand c'est mauvais, c'est très mauvais.
C'est ça.
Quand c'est bon, c'est excellent. Et surtout quand Baptiste Serein est très bon, Toulon est absolument peut battre tout le monde. Franchement, j'ai cette impression-là. Donc voilà, les autres derrière me font peut-être un peu moins peur. Quoique encore, j'y crois pas vraiment, mais on va dire que Perpignan a montré qu'il savait plutôt bien jouer le Stade Toulousain ces dernières saisons, avec des matchs très enflammés. Donc voilà.
Alors pour le coup, Perpignan, ils vont rencontrer Bordeaux en dernière journée.
Oui.
Donc faut voir aussi comment ça tourne parce que.
Non, pour en dernière journée.
Ah, c'est là, il y a 26 journées, je suis bête, je ne sais pas compter. Faut voir parce que, tu vois, sur la rencontre Bordeaux-Stade Français, en fait, s'ils gagnent bonifié, ils leur passent devant, mais sinon, ils sont à égalité quand même. Donc, je pense qu'il faut voir un petit peu le. Ceux qui iront en barrage, ils vont forcément, ça va forcément piquer un peu plus, quoi.
Mais après, pour le coup, je pense, quand je vois le calendrier du stade, je pense que les places dans les deux premiers, elle est quasiment acquise, en fait. Parce que là, le prochain match, déplacement à Montpellier la prochaine fois. Après,
ils sont un peu à l'agonie, quand
ils reçoivent La Rochelle. Et ensuite, je vois qu'ils se déplacent à Lyon. Donc, je pense
C'est à Montpellier, la finale en
Ligue 1. Ils reçoivent La Rochelle.
Ils reçoivent La Rochelle et ils vont en Lyon, oui.
Voilà, donc je pense que leur fin de saison est quand même plutôt à leur avantage.
Attention, parce que la finale de Coupe d'Europe, ça peut leur faire mal aussi. Surtout face au Leinster. Bon, ça peut faire des bobos le 25 mai avant.
Ouais, mais on l'a bien.
Blessure, dans la tête s'ils la perdent, quoique c'est peut-être pas le style de la maison. S'ils la perdent.
Ah, s'ils la perdent, ils auront d'autant plus
d'intérêt. Ils vont rouler sur tout le monde, et puis là, ça va être net et sans bavure. Mais Mais
l'avantage du stade toulousain, c'est justement que, et on l'a vu ce week-end, c'est que même quand ils font tourner, et ce week-end ils ont fait tourner,
oui.
Ils ont quand même une équipe qui
la profondeur devant. Ouais, enfin, c'est ça, le banc, c'était des joueurs que des joueurs qui sont en équipe de France quasiment. C'est fou.
Mais d'où la question de quels sont les possibles successeurs et y en a-t-il surtout? Parce que si je dis pas de bêtises, et je vais vérifier en même temps que je lance ça, la dernière défaite de Toulouse à domicile, c'est contre personne cette saison.
Non, puisque là, ils viennent d'enchaîner leur 20e match.
Ils
n'ont pas perdu depuis 122 jours exactement.
C'est contre personne à la maison, et leur dernière défaite, c'était le RCT le 20 avril. À Toulon. Et ils ont perdu d'un point. Avec une équipe.
Une équipe qui était.
Là aussi remaniée. Bon, il y avait quand même Thibaut Flamand, il y avait Paul Graou, Marchand,
en fait,
Nethi, Ramos. Mais voilà.
Ça reste correct, quoi. On peut se permettre de laisser Dupont sur le banc. Et ça fait le job, quoi.
Dans le pack, à part. Il y a deux questions qui peuvent se poser, mais le pack, c'était le pack qui était quand même titulaire. Enfin, je veux dire, à part Castro Ferreira qui prenait la place de Cross, et on peut chipoter sur la deuxième ligne, parce qu'en fait, on comprend pas bien qui est titulaire entre Arnold, Flamand et Méafou, parce que Flamand commence une fois sur deux sur le banc. Donc voilà, mais c'est un prêt pour moi, et le pack était quand même titulaire. Donc je trouve qu'on est peut-être un peu trompé par cette idée d'équipe B, juste parce qu'il y a, entre guillemets, pas Dupont et Ntamack titulaire. Quoi.
Bah ouais.
Ramos un peu moins en réussite aussi face au Stade français. Ça, c'est le genre de choses qui compte. Et il va falloir
compter. Après, les
grands buteurs, ça compte.
Toutes les équipes sont potentiellement vulnérables sur des blessures. Et pour le coup, je pense que l'effectif qui peut le mieux les encaisser, c'est celui du Stade toulousain. Parce que c'est exactement comme ce que tu as dit, Erwan. À Bordeaux, ils ont des arrières qui sont incroyables. Sauf qu'en fait. Ils n'ont pas non plus des remplaçants pour chacun aussi flamboyants pour chacun des arrières.
Moi, je suis plutôt de l'avis contraire. Pour
le calendrier de Bordeaux, il est beaucoup plus.
Les remplaçants de Bordeaux sont, même pour certains, plus forts. Moi, j'ai du mal à comprendre, par exemple, comment. Quand Louis Biarré, aussi bon soit-il, a un trou dans sa forme, etc., comment des Madoch Tamboué, par exemple, ne peuvent pas être titulaires. Clairement, je pense, serait titulaire dans n'importe quel autre club de top 14, et même à Toulouse. Je suis quasiment sûr. Enfin, pour moi, je pense que Madoch Tamboué serait titulaire à Toulouse.
Et pour les calendriers, donc le Stade toulousain aura un match en plus à jouer, et pas des moindres, pour le successeur possible, Bordeaux, donc, qui joue le Stade français à Paris, Perpignan à Perpignan, et Oyonnax à domicile, le dernier match, avec potentiellement le match
de
barrage, qui risquerait d'être soit le Racing. Donc au final, Bordeaux a peut-être le meilleur chemin vers la demi-finale et potentiellement un petit peu cette écharde dans le pied du Stade toulousain, à moins que le Stade français
Et Pau, ils peuvent se qualifier pour les barrages aussi.
Alors en termes de chiffres, oui.
Ouais, Pau, ils sont après, un point derrière le Stade Rochelet, ouais. Et donc
pour rebondir sur Bordeaux, attention sur le.
D'accord.
Non.
Pau, ils ont La Rochelle, le Racing et Perpignan. Oui,
ouais,
bon,
non,
c'est bon.
leur fin de calendrier est plus
compliqué. Deux,
mais pour Bordeaux, c'est vrai que attention au dernier match contre Oyonnax, donc du coup chez eux, Oyonnax, potentiellement ils peuvent encore jouer la 13e place. Et si le dernier match, certes, ça sera à l'extérieur pour eux, mais s'ils peuvent aller chercher une 13e place, Bordeaux, ça sera pas forcément très simple le match à la maison, parce qu'ils seront encore plus transcendés peut-être.
Ils peuvent jouer une 13e place, ils vont quand même prendre Toulouse aussi d'ici à la fin, Oyonnax.
Oyonnax
ensemble,
non.
Non, c'est Bordeaux qui prend Oyonnax le dernier match. À Bordeaux.
Oyo, ils reçoivent Toulon. Ils reçoivent Bayonne, ils reçoivent deux fois d'affilée d'ailleurs Oyo. Donc
Oyo.
Carrément.
Ça, on a plus le X à la fin.
Oyonnax, c'est Toulon, Bayonne et Bordeaux.
Ouais,
c'est ça. Oyonnax, ça a déjà un pied en Pro 2. Donc,
Et Toulouse qui finit à Lyon, et Lyon qui est une des meilleures équipes du top 14 à domicile, qui perd quasiment pas.
Et Lyon qui joue plus grand chose, puisque Montpellier est beaucoup trop loin.
Et La Rochelle, comment vous les voyez finir la saison là?
Mal.
Bah, peut-être pas dans le top 6.
Moi, ça m'a...
Peut-être pas dans le top 6, mais...
C'était un peu flippant. Hein.
La Rochelle...
Et j'ai trouvé qu'en plus, il y avait une ambiance dans les commentaires d'après-match. Là,
La Rochelle, oui, ça va être compliqué, puisqu'ils prennent la section paloise à domicile, le Stade Toulousain à Toulouse, et, et le Racing à la maison, à Marcel de Flandre. Donc, ça va être une fin de saison compliquée pour La Rochelle et encourageante pour la section paloise qui va jouer deux potentiels adversaires.
60 ans après, ça serait tellement beau.
Ah oui.
Oui, parce que le dernier titre de la section paloise. Après, c'est les dernier titre de la section paloise était en 1964. Donc, ouais,
eh ben, on leur souhaite en tout cas. On leur souhaite en tout cas.
Personne ne parle d'un hold-up de Castres dans le top 6.
Non, personne ne parle d'un hold-up de Castres.
Ils l'ont déjà fait il y a quelques années.
C'est vrai.
C'était quoi, en 2018 qu'ils sont allés gagner contre Montpellier.
C'était pas le même entraîneur.
C'était 17, je crois, non?
2018, non, 2018, c'est la même année que la Coupe
du Monde. 18. J'étais à Londres ce jour-là. Voilà. Donc, on voit que Bordeaux, pas personne d'autre.
Castres. Non.
Toulouse
non, attends, Castres.
Toulouse,
Castres,
Bordeaux.
En bonne voie
et Castres, Françoise
hein.
Non, moi je veux Toulouse.
Moi je veux Toulouse, d'accord, très bien.
Castres, faudrait déjà qu'ils arrivent dans le top 6. Oui. Il y a du monde quand même devant eux. Hein. Il y a Toulon, il y a le Racing.
J'ai un rêve pas loin.
C'est vrai. En fait, c'est peut-être là où il va y avoir le plus.
Ça va être le plus serré entre Pau, Castres, La Rochelle et le Racing. Donc ça sera.
De toute façon, il y a un point qui sépare chaque équipe.
Une belle fin de saison à suivre. Justement, la fin de saison, elle approche. Et c'est avec un match qu'on va pronostiquer tout de suite. Le match entre Montpellier et le Stade Toulousain, c'est samedi à 18h. Ah, le samedi 18 mai à 14h. Anne-Françoise, votre pronostic, vous avez 30 secondes top chrono.
Alors bah Montpellier ils jouent quand même très très gros là. Moi je pense qu'ils bon là ils ont pris un peu le bouillon quand même ce week-end. Mais je pense qu'ils vont venir revanchards. Toulouse va probablement faire un petit peu tourner. Franchement je sais pas trop mais je vois quand même une victoire du Stade mais à moins de 10 points quoi. Ce qui est presque une défaite pour le Stade.
Ah, vous avez encore 5 secondes.
Ah oui non mais voilà je reste là-dessus 10 points. Même. D'ailleurs, je tiens à dire que la dernière fois que je suis venu, on avait fait des pronos et je pense que j'avais quasiment le bon score.
Vous pouvez me redonner votre pronostic de tout de suite parce que j'ai absolument pas écouté, j'étais en train de préparer.
Le Stade Toulousain gagne plus 10 points.
Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. C'est dans les annales, je suis en train de l'écrire comme ça, moi la semaine prochaine on fera le point. Erwan, top départ, 30 secondes.
On n'est pas top à la vachette.
Top à la vachette.
Top au bœuf.
Oui, pour Toulouse-Montpellier. Alors, moi, j'imagine bien Toulouse y aller avec une équipe un peu solide quand même. Parce qu'il y a eu un peu de turnover, comme on l'a dit, sauf au niveau du pack. Peut-être, on va dire, faire tourner au niveau des avants. Mais par contre, j'imagine bien Dupont et Ntamack jouer. Et si jamais ils arrivent à être suffisamment bons en première mi-temps et à créer un écart suffisamment grand, sortir très rapidement, voire même peut-être à la mi-temps. Mola avait déjà fait ça ces dernières années sur des gros matchs. Donc voilà, victoire large du Stade Toulousain, 30 à 10, on va dire.
Très bien, 30 à 10, c'est noté. Et Coraline, on termine par vous.
Moi, je pense sur une victoire assez écrasante du Stade Toulousain. La composition, je pense, identique à celle qui avait été affichée ce week-end. Donc peu de changements, Dupont et Ntamack toujours absent et ouais allez on va dire bonus offensif du Stade Toulousain qui vont je pense sceller le sort de Montpellier à au moins la 13e place. Je le vois venir comme ça, ouais.
On est fair play, vous avez 3 secondes, on vous en laisse les 3 dernières secondes pour vous exprimer, bien en tout cas. C'est noté, écoutez, la semaine prochaine, lundi de Pentecôte, on ne se retrouvera pas en direct. On se retrouvera pour une émission spéciale. Très bonne semaine. Et si vous voulez, le meilleur moyen de ne rien rater, c'est de rester là. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une émission spéciale, même heure, même radio.